Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre. Petit souci technique pour revenir. Donc, vous avez eu le temps, je sais pas, de découvrir déjà les membres du panel pour vous parler de la série Perry Rhodan. Donc, Michel Vanreux, grand spécialiste de Perry Rhodan, rédacteur en chef de la revue Le Météor. Donc, Angélique, qui est une grande fan,
une grande
lectrice, et ce qui montre que contrairement à ce qu'on dit très souvent, la science-fiction est aussi lue par des femmes, c'est important.
Pierre
Monneret, qui écrit des romans, des histoires de Perry Rhodan en français. Et enfin Jean-Michel Archimbault, écrivain et directeur de la collection actuelle de Perry Rhodan au Fleuve Noir. Et j'avoue que je suis très content d'être ici pour entendre parler de Perry Rhodan, parce que moi je fais partie des lecteurs de la première heure. Je me souviens encore quand j'étais au lycée, tout jeune, et que j'ai vu dans une vitrine, dans une librairie, le premier roman de Perry Rhodan, Opération Astrée, qui venait de sortir, et je l'ai acheté, et je m'en suis jamais remis, vous voyez, 40 ans après, donc on est toujours en train de les lire. Donc Perry Rhodan, grande série allemande, un phénomène, on peut dire, unique, de librairie depuis 1961 en Allemagne. On en est, je crois, plus de 2600 fascicules maintenant. Donc peut-être pour commencer, l'un d'entre vous, peut-être Jean-Michel, tu pourrais nous faire, qui a été aussi, j'ai oublié de le dire, l'auteur du livre de référence en français sur la série Perry Rhodan aux éditions Ancrage. Peut-être Jean-Michel, tu pourrais d'abord faire une brève présentation de Perry Rhodan.
Ok, also werde ich zuerst in Deutsch anfangen. So, Perry Rhodan ist das längste weiterführende Projekt der ganzen Literaturgeschichte der Welt.
Ja.
Okay, alles verstanden?
Ja.
Bon, les excuses, on a vécu ça en direct à la convention du 50e anniversaire à Mannheim au mois d'octobre. Donc c'est un petit flashback pour les gens qui y étaient. Donc ce que je viens de dire n'était pas de moi, mais il se trouve que Andreas Eschbach, qui est un auteur allemand qui a un peu participé à Perry et qui a écrit des ouvrages dans certains excellents des traduits en français, a commencé un peu comme ça son discours d'introduction en disant « Perry Rhodan n'est pas vraiment la plus grande série de science-fiction au monde. » Mais pas seulement ça, Perry Rhodan est aujourd'hui le plus grand projet de saga continue de toute la littérature mondiale. C'est-à-dire une histoire qui démarre, qui se poursuit avec des développements de personnages et de thèmes depuis le début jusqu'à aujourd'hui et pratiquement sans rupture de continuité. C'est-à-dire que ce n'est pas une série avec des épisodes collés les uns aux autres, qui viennent les uns à la suite des autres, avec un peu de fil conducteur et pas trop. C'est vraiment une saga qui se développe comme une histoire du futur et en même temps une histoire de l'univers depuis ses débuts. À savoir que, bon, sans entrer dans les détails, parce que ça nous amènerait à plusieurs heures de discussion, quand on prend la saga telle qu'elle est aujourd'hui, on a affaire à un phénomène qui nous reconstruit une modélisation complète de l'univers, depuis ses débuts jusqu'à un lointain futur. Et c'est quelque chose qu'on commence à voir apparaître aujourd'hui dans la version française, sachant qu'on a à peu près 35 ans de retard, malheureusement, sur le point actuel de la série en Allemagne. Donc, de ce qui était au départ une simple, entre guillemets, tentative de série d'aventure spatiale qui se lance en plein à l'époque de la guerre froide et qui aura pour première finalité de sortir le public allemand de la problématique dans laquelle il est, c'est-à-dire début des années 60, coincé entre l'Est et l'Ouest, en ne sachant pas trop qu'est-ce qui va lui tomber un jour sur la figure. Donc les auteurs qui ont conçu cette série au départ ont très vite, pour que les lecteurs adhèrent et soient sortis de leur problématique quotidienne, ont prévu de faire régler d'abord et avant tout le problème du conflit mondial, bon, en l'occurrence par la découverte sur la Lune d'un vaisseau extraterrestre qui a fait naufrage, et l'utilisation par les terriens qui vont découvrir ce vaisseau donc l'utilisation de la technologie supérieure de ces étrangers, non pas pour la donner aux Américains, la donner aux Russes ou à n'importe qui d'autre, mais pour se poser en état indépendant et fédérer la planète et imposer une paix planétaire. Donc je pense que, très rapide flashback sur le début de la série, ça c'était vraiment le coup de force du départ. On règle dans l'esprit de chaque lecteur, même si c'est fictif, ce qui les préoccupe au quotidien, à savoir est-ce que ça peut nous tomber dessus un jour, qu'est-ce que ça sera. Et dès que ce problème est réglé, en supposant que le lecteur se trouve mieux et plus optimiste, après on ouvre vers les étoiles et on l'emmène pour les grandes aventures spatiales qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et plus on va aller loin dans l'espace et dans le futur, et en même temps plus on ira loin dans le passé et vers les origines, à savoir que c'est ça l'intérêt aussi, il y a une construction de progression dans l'aventure, dans l'épopée, dans les sites, dans les thématiques, toujours en phase avec les problèmes de l'époque, grâce aussi à l'interface qu'il y aura avec le courrier des lecteurs, mais il y a aussi cette reconstruction du passé qui va donner, en fin de compte, un modèle global qui est très complet, intéressant et pratiquement toujours évolutif même aujourd'hui. Donc nous, on n'en voit pas encore tout. On commence à apercevoir les arrière-plans aujourd'hui à travers les conflits entre ce qu'on appelle les super-intelligences qui sont sur une strate supérieure d'évolution par rapport à nous. Enfin bon, c'est un phénomène qui est complet, certes catalogue de beaucoup de thèmes de la science-fiction qu'on connaît, mais en même temps qui vaut le coup d'être découvert à travers la vision qu'il propose, et pour la vision qu'il propose. Voilà, donc rapidement on sait le portrait du phénomène dans ce domaine.
Alors, c'est vrai que c'est le plus bel exemple qui soit de littérature populaire, de science-fiction, d'un succès qui ne se dément pas. Peut-être après cette introduction, Michel, tu pourrais peut-être résumer très brièvement certains des, comment dirais-je, grands archétypes, des grands courants qu'on trouve à travers Perry Rodan, parce que on trouve par exemple, il y a les mutants, il y a l'immortel de Delos, etc. Peut-être que tu pourrais résumer très brièvement pour que l'assistance ait une idée un peu meilleure de ce qu'est Perry Rodan, certains des grands thèmes. C'est difficile, je te pose une question difficile, mais ça serait peut-être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas Perry Rodan de voir un petit peu l'ampleur générale de ce qui est abordé.
Donc dès les premiers moments de la série, ça commence assez souvent par des invasions d'extraterrestres, donc qui viennent d'abord du système voisin, après d'une autre galaxie, mais très très vite, alors qu'au début il y a une période de conflit, après il y a une entente et ils trouvent toujours un point commun. Donc le but c'est vraiment l'union et de devenir amis avec des intelligences extraterrestres. Et le but, et ce qu'a fait aussi la force de la série, c'est de commencer petit. Donc d'abord, c'est vraiment des récits qui se déroulent pendant la guerre froide sur la Terre. Ça s'étend après au système solaire, peu à peu au reste de la Voie lactée, jusqu'à attaquer notre galaxie. Et au fur et à mesure de la série, donc il y a un empire solaire qui se crée. Donc il y a une ambiance assez militaire, mais qui... Dans les épisodes qui paraissent actuellement en France, cette militarisation de la série a complètement volé en éclats. Donc maintenant, ce qui sous-tend toute la série, c'est vraiment la découverte de l'inconnu et comment fonctionne le cosmos. Donc on est vraiment parti de quelque chose de contemporain jusqu'à vraiment la grande épopée cosmique.
Avec une sorte de, quelque part, prédestination de la Terre. Parce qu'on s'aperçoit, Jean-Michel y a fait un peu allusion, par exemple, avec Atlan, on s'aperçoit que déjà, on plonge très loin dans le passé, on plonge très loin dans notre passé, etc. Il y a une sorte de prédestination un peu du destin terrien, en quelque sorte, si on peut utiliser ces mots.
Donc, très vite dans la série, il y a un personnage, une entité psychique qui s'appelle l'Immortel, qui sait que l'humanité a un destin fabuleux devant elle et qui l'aide. Mais cette entité est aussi intervenue dans le passé, et peu à peu dans la série, on n'en est pas encore là en France, on va savoir pourquoi la Terre a un rôle si important. Pourquoi tout le monde veut envahir le système solaire. Et pourquoi il y a autant d'actions qui se passent sur la Terre? Pourquoi ce sont toujours les terriens qui sont au premier plan? Donc c'est pas simplement du terrocentrisme, c'est au fur et à mesure de la série, on va vraiment savoir pourquoi. Et le but, c'est vraiment le rôle de l'humanité dans tout le, au niveau du niveau cosmique.
Ah, alors une.
J'ai une question. Je suis j'ai acheté à l'instant, là, il y a 20 minutes. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Alors j'ai une question pour ce qui concerne la militarisation. Vous avez dit qu'elle avait été en quelque sorte éradiquée. Et je voudrais savoir comment c'est possible, si on reste fidèle à l'œuvre, d'en éradiquer une partie.
Oui, j'ai une question concernant la militarisation et son éradication. Vous avez dit qu'elle avait été en partie éradiquée, si j'ai bien compris.
Donc,
je voulais savoir comment c'était possible.
Donc pendant très longtemps, donc, on a l'Empire solaire avec les flottes, les missions commando sur d'autres planètes, mais sans qu'il y ait beaucoup de violence. Hein, c'est toujours très assez naïf. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a une grande puissance catalane et les terriens ne sont absolument pas à la hauteur. Et en fait, il y a un cycle qui finit mal, où même la Terre disparaît du système solaire, les méchants cassent tout. Et après, ça se reconstruit, mais sur d'autres bases.
Cette histoire de militarisation, en fait, elle répond aussi en partie à l'évolution du genre qui s'opéra au cours du temps. L'évolution principale, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de space opéra qui sont décrits, qui sont à tendance un peu brutale ou militaire. Mais dans le courant de cette série, on s'est sorti progressivement de ce qui était le conflit pure et dur, la bataille spatiale pure et dur. On y est revenu par moments parce qu'il y avait une demande des lecteurs pour retrouver un peu d'effets spéciaux et un peu de grande bataille spatiale à la Star Wars. Mais dans l'esprit de fond, on est presque maintenant systématiquement, et déjà depuis longtemps, sur l'idée de dire, s'il y a quelqu'un qui se pointe en adversaire potentiel, au lieu de se taper dessus, certes, peut-être que ça sera inévitable par moment, il faudrait avant tout essayer de comprendre pourquoi il est amené à débarquer et à être hostile. Donc, quelles sont ses motivations? Et à partir de là, on arrête de parler en termes de rapport de force et de confrontation violente, mais on va plutôt essayer d'envoyer des gens, noyauter le système et comprendre, donc en terrain adverse, quelles sont les motivations réelles et pourquoi ces gens-là qui ont débarqué comme ça brutalement ont ces motivations-là. Donc c'est plutôt comme ça.
Pour on est passé de Star Wars à Star Trek.
On pourrait effectivement le voir comme ça. C'est vrai que l'approche est intéressante. Vu comme ça, c'est
pas mal.
Oui.
Il y a une question là-bas de monsieur.
Là, sur la banderole de Perry Rodham, ce que vous avez derrière vous, avec les deux mains qui se croisent et le mélange des couleurs, j'ai l'impression de voir le drapeau confédéré américain. Est-ce une illusion ou est-ce c'est voulu?
C'est une illustration qui remonte à un épisode allemand qui, dans ma mémoire, doit être le 288, c'est-à-dire dans les années 65 ou 66. Et bon, l'illustration, elle est un peu plus complète, je dirais, sur le fascicule sur lequel elle est parue. Et c'est clairement allusion au règlement d'un conflit extrêmement destructeur, potentiellement extrêmement destructeur, entre les humains et une race non humaine qui s'est réfugiée dans la nébuleuse d'Andromède, aux abords de la nébuleuse d'Andromède. Et donc ce fascicule s'appelait le Pacte des Galaxies et illustre clairement la possibilité d'entente entre des peuples qui sont complètement différents, moyennant un effort commun de compréhension et de chemin l'un vers l'autre. Le rapport avec le drapeau confédéré américain, c'est pas exclu, moi je ne me prononçais pas là-dessus, sachant que quand on regarde les analyses qui ont été faites sur les couvertures d'origine des fascicules allemands, les sources d'inspiration de Johnny Brook, qui a été l'illustrateur qui les a pratiquement faites toutes jusqu'à 1800, je crois, Brook a énormément pris d'éléments dans des illustrations d'origine américaine, dans des revues techniques militaires scientifiques américaines, et bon, s'est inspiré tous azimuts. Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme ça a été, de par sa profession, obligé de produire au moins 15 ou 20 illustrations par semaine, et que l'illustration Perry Rodham de la semaine dans quelques temps, parce qu'il travaillait évidemment avec de la danse, faisait partie de tout ce panel d'images qu'il avait à faire pour des fascicules spécialisés sur les aventures de corsaires, sur du fantastique, sur des histoires d'amour, des histoires de chasseurs, n'importe quoi. Il avait un panel très large. Là-dedans, il y avait un Perry Rodin à faire toutes les semaines. Et là, de temps en temps, ça allait très vite. Et il prenait un truc, il disait, ah ben tiens, ça pourrait peut-être aller. Donc, les sources d'inspiration sont innombrables. Et il n'est pas exclu que ce soit ça.
Oui, il faut peut-être rappeler qu'en Allemagne, Perry Rodin paraît sous forme de fascicule, comme ça, donc à raison d'un par semaine. Et ça, depuis le 8 septembre 1961.
Monsieur.
J'avais une question au niveau de la continuité de l'univers de Perry Rodin. Est-ce que c'est quelque chose qui a été planifié depuis le début? Est-ce qu'il y avait vraiment un grand plan pour aller aussi loin dans le passé et dans l'avenir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure?
Ça s'est développé au fur et à mesure, mais sachant que donc, Perry Rodin, en fait, il y a une personne qui assure la continuité, il s'appelle le rédacteur de l'exposé, mais qui peut prévoir à 200 ou 300 épisodes près. Donc c'est en fait, ça c'est par bloc. Et donc, et tout au début, en fait, il disait pour faire 9 épisodes, 30 épisodes, et bon après c'est parti, il n'y a plus de fin. Et au bout d'un moment, les cycles ont été conçus pour faire 100 épisodes, et après ça a été ils ont commencé à faire des grands cycles, où là c'était vraiment 200, 300, 400 épisodes, où ils visent très très loin maintenant.
Alors ça se fait pas n'importe comment. Dans Perry Rodin en Allemagne, ce qu'on voit pas sur la version française, c'est l'œuvre d'un collectif d'auteurs. Donc ce collectif d'auteurs, bien évidemment, depuis 1961, il a évolué. Et on doit en être aujourd'hui à peu près la quatrième génération. Donc la technique, par contre, parce qu'on peut vraiment parler de technique d'écriture, est assez imparable. Les auteurs se rencontrent, bon, sont un peu guidés et fédérés par un rédacteur, en chef. Les auteurs se rencontrent une fois par an pour tracer des plans à long terme sur 50, 100, 200 épisodes. Ça dépend du moment où ils se rencontrent et ce qu'ils ont à faire. Mais toujours est-il que le process est toujours le même. On trace une trame relativement large depuis le point où on est, au moment où on fait la conférence d'auteur, jusqu'à un point où on veut arriver. Ensuite, donc c'est une espèce de brainstorming de toute une équipe. Hein. Donc chacun met ce qu'il pense, c'est de rediscuter, redébattu, bon, et on sort la trame générale. Ensuite, il y a un redécoupage de cette trame en éléments, je dirais, un peu plus denses dans le temps. Et ensuite, troisième épisode, le responsable des synopsis, qu'on appelle l'exposé rédacteur en allemand, va reprendre ces trames, par exemple, sur 50 épisodes sur un an, et va refaire des synopsis individuels pour chacun des épisodes. Voilà. Mais c'est toujours un consensus global avec l'ensemble des auteurs, puisque tout le monde a participé au début à l'élaboration donc, du plan à long terme, du plan à moyen terme, et se retrouve forcément dans le plan à court terme. Donc après, ça dépend des types d'exposés, ça dépend de ce qu'on veut raconter. Il y a des données qui sont ajoutées, qui sont intégrées dans le roman en cours d'écriture, mais il y a en principe aussi une part qui est laissée à l'imagination et à la créativité de chaque auteur. Et après, ben, on tombe sur les personnalités individuelles, sur les gens qui sont plus portés à écrire des choses qui auront un petit air de fantaisie, si on veut, ou des gens qui seront plutôt artisanaux, qui seront plutôt pour des histoires de robots, plutôt axés sur l'appareil psychologique et les mutants. Et les exposés seront aussi ensuite un peu distribués aux auteurs, en fonction du contenu et en fonction de ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est pas une série, je dirais, qui est militaire dans sa conception, et dans son fonctionnement au niveau de l'écriture. Bon, certes, il y a des règles précises, et c'est pour ça que ça marche encore, mais il y a une part de liberté, une part de créativité qui est certaine.
Mais si je crois qu'ils ont une bible qui existe pour que les auteurs qui intègrent la série, etc., quand même ne s'écartent pas, ne transforment pas complètement le caractère des personnages, enfin que ça s'intègre, que ça suive quand même une trame.
Alors, la Bible existe. Bon, il y a déjà un lexique en 5 volumes, un dictionnaire en 5 volumes, donc plutôt à tendance encyclopédique qui existe depuis 91. Et puis maintenant, en édition papier, il n'y a plus grand chose qui soit sorti qui actualise ça, mais on a beaucoup de choses qui sont dispo sur Internet. Il y a des encyclopédies Perry Rodin en ligne, bon, langue allemande pour la plupart, donc pour les gens qui ont à écrire en allemand. En France, il y a un bon travail qui est fait par Michel des gens qui collaborent avec lui sur le site spécifique, ou à la limite quelqu'un qui voudrait aujourd'hui en France écrire une histoire de Perry Rhodan peut aller chercher des bases, des inspirations à la limite, et des renseignements précis dans cette base de données. Mais la base de données est une condition sine qua non pour pouvoir écrire dans le cadre de la série, de même que pour la traduction, ce qu'on a constitué nous comme lexique de traduction, c'est aussi la base indispensable pour continuer à traduire du Perry Rhodan sans trahir l'esprit de ce qui a été fait précédemment et sans s'attirer les foudres des lecteurs, parce que le machin bidule qui un jour s'est appelé comme ça, 4 mois après, on l'a oublié, on l'a appelé autrement. Donc il y a beaucoup de rigueur de toute façon dans tous ces processus.
Justement, nous avons avec nous quelqu'un qui écrit des histoires de Perry Rhodan en français. Donc Claire, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ton parcours. Comment on peut soudainement avoir l'envie d'écrire encore d'autres aventures supplémentaires de Perry Rhodan? Comment tu procèdes?
Alors d'abord, côté envie, bon, faut bien sûr être un fan de la série déjà, faut avoir envie d'écrire. Quand j'étais tout petit, je m'étais déjà surpris à essayer d'écrire des Bob Morales, mais je les avais gardés pour moi. Donc là, sur Perry Rhodan, disons que le premier qui a essayé dans l'univers francophone d'en écrire, c'est un Canadien, qu'on a écrit donc un volume très très intéressant, qui a apparemment passionné les fans. Et je me suis dit que c'était quand même pas normal qu'il y ait des Canadiens qui écrivent des histoires comme ça. Donc j'ai essayé de le faire aussi, et j'ai essayé de voir un petit peu plus grand qu'un seul épisode, et je me suis lancé dans des mini-cycles, 6 épisodes, dont je vais être en train d'écrire le finir le 21e épisode en ce moment. Mais l'écriture, effectivement, c'est... Moi, j'ai pas de rédacteur d'exposé qui me force à écrire quelque chose. J'essaie de me mettre dans la trame générale de la série pour pas déconcerter les fans, et j'essaye de... Ben, j'ai plusieurs axes après l'écriture, bon, toujours des aventures le plus passionnantes, le plus trépidantes possible, parce que c'est ce que j'aime lire dans la série, avec la bonne dose qui va de hard science, de mutants, et d'histoires avec des rebondissements. Et puis j'essaye de m'insérer entre les cycles officiels dont Michel parlait de la série allemande, histoire un peu de compléter comme on fait les Allemands d'ailleurs, même si on n'a pas parlé, où les Allemands écrivent de leur côté ce qu'ils appellent des romans planétaires qui permettent aux nouveaux auteurs de se roder avant d'arriver dans la saga et qui écrivent des histoires en dehors des cycles officiels. Donc effectivement, il faut d'abord s'amuser à avoir des idées, il faut écrire soi-même son exposé, il faut prévoir des chutes pour chaque roman dès qu'on fait un petit cycle. Et puis après, les cycles s'enchaînent. Après, c'est le plaisir d'être lu, d'être critiqué, dans mon sens, hein, je vous rassure. Sinon, je me serais arrêté. Et ça vous permet de continuer. Et j'espère que ça va continuer.
Alors, maintenant, je vais me tourner vers ce qui est très rare dans la science-fiction, une femme. Hein, Dieu merci, on en a quand même de plus en plus d'auteurs. Mais alors, je voudrais poser à Angélique la question suivante. Qu'est-ce qui, là, le point de vue féminin, qu'est-ce qui peut attirer un lectorat féminin chez Perry Rhodan? Bon, je sais. Dès le début, la commandante, c'est une commandante qui dirige le vaisseau Arcodide dès le premier volume, ce qui, lorsqu'on se replace au tout début des années 60, est déjà très peu courant. Hein. On était dans un milieu, les astronautes, ils sont tous masculins en principe. Donc, est-ce que c'est ça qui t'a attiré? Qu'est-ce qui attire dans la série comme ça?
D'abord, moi j'ai connu la série, je suis rentrée dans la série à l'âge de 15-16 ans à peu près. Période de l'adolescence, je disais déjà de la science-fiction depuis l'âge de 11-12 ans, donc ça m'a toujours passionnée. Dans la série Perry Rhodan, l'avantage, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais il faut dire effectivement que là, nous on en est toujours dans les années 70 par rapport à la série allemande, donc il n'y a toujours pas autant, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais c'était une série qui était non guerrière justement, enfin, c'était pas trop violent, il n'y avait pas des batailles. En plus, il y avait de la science qui rentrait en ligne de compte, ce qui était plutôt intéressant. Le fait qu'il y ait plusieurs auteurs qui écrivent, on avait donc des points de vue, des idées, des styles différents quand même, après la traduction qui ne nous donne pas toute l'intégralité de ce qui peut être écrit en allemand. Et il y avait ce côté aventure aussi. On allait voir ailleurs, on allait voir les étoiles. quelque chose qu'on n'aura jamais l'occasion de faire, nous, en tant que terriens. C'était pour moi quelque chose d'assez fantastique. Et il y avait des personnages très attachants. Dans Perry Rodan, c'est l'avantage, c'est qu'on a des personnages qui perdurent, auxquels on peut pas forcément s'identifier, mais qu'on reconnaît. On connaît leur caractère, on connaît leur physique, on sait un peu ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont dire, dans une certaine limite. Et c'est ça aussi qui est agréable dans la série. On les retrouve tout au long de l'histoire. De temps en temps, ils disparaissent un moment, ils reviennent, tout en ayant toujours certains incontournables, comme Perry Rodan, entre autres. Et c'est ça qui fait aussi que pour un public féminin, c'est assez agréable, enfin, je pense. Enfin, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas représentative de toutes les femmes non plus, pas non plus. Mais pour quelqu'un qui aime un peu la science-fiction, Perry Rodan, justement, on peut trouver plein de thèmes, plein de choses différentes dans une seule saga.
Alors, d'ailleurs, on a évoqué auparavant le succès de Perry Rodan depuis presque 50 ans maintenant en Allemagne, mais il serait peut-être intéressant quand même d'avoir une idée, on n'a pas prononcé beaucoup de chiffres, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce que représente grosso modo le succès de Perry Rodan en tirage, etc., en Allemagne d'abord, puisque c'est là où a lieu la série originale, mais aussi en France, on a la chance d'avoir le directeur de la collection ici. Profitons-en pour lui extirper quelques chiffres.
Bon, en Allemagne, on est toujours à, sinon on révolte plusieurs centaines de milliers par semaine. Donc un fascicule se vend peut-être à 200-300 000 exemplaires. Est-ce que tout est lu? C'est pas une certitude, mais en tout cas, les chiffres sont encore assez impressionnants. Et c'est abaissé par rapport à ce que c'était autrefois. Ils ont été au maximum, les plus forts chiffres qu'ils aient fait, c'était 700 000 par semaine. Donc ça représente quand même un tirage phénoménal. quand c'était années 60, années 70 et début des années 80. Après, bon, il y a eu chute, reprise. C'est pas un long fleuve tranquille non plus. Hein. Bon, en France, aujourd'hui, on est entre 7 000 et 8 000. Par volume et par mois.
Ce qui est très honorable.
C'est relativement honorable, c'est pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Le problème d'aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, on était plus élevé, parce qu'on a été jusqu'à de l'ordre de 10 000, 11 000 lecteurs, enfin acheteurs, je vais dire, début des années 2000. Et il y a une érosion naturelle qui se produit pour une raison extrêmement simple. Ici, bon, les gens qui sont plus jeunes que moi, il y a aussi des lecteurs dans le public qui sont de mon âge et plus âgés. Le problème aujourd'hui de cette série, c'est que le lectorat est vieillissant. La plupart des gens qui continuent à le lire sont ceux qui ont quasiment commencé à lire en découvrant cette littérature-là. Et donc, par, l'effet des tables de mortalité classiques, on a une chute du public parce que nos grands anciens disparaissent malheureusement les uns après les autres. Et donc, problème corollaire, on n'arrive pas à rassembler des jeunes lecteurs, à attirer des jeunes lecteurs, parce que je reconnais que côté éditorial, c'est très 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 difficile, sinon impossible, d'arriver à faire bouger les choses et de faire lancer par l'éditeur des choses qui pourraient être mobilisantes pour des jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on vous dit que Perry Rodan, version française, il a démarré un nouveau cycle au mois de décembre avec son numéro 282, j'aimerais bien savoir qui, dès qu'on aura fini cette table ronde, ou demain, va se précipiter pour acheter le 282 et commencer à lire le nouveau cycle, tout en se disant quand même, pétard, il y en a 281 avant, comment je vais faire pour savoir ce que ça a raconté? Bon, donc je pense que ça c'est un gros handicap de départ. Alors, il y a peut-être des moyens d'y remédier. On a mis des choses en ligne sur le site de Fleuve Noir, maintenant Pocket, bon, qui résume ce qui s'est passé avant. Mais n'empêche qu'il y a un droit d'entrée à payer, un droit d'entrée intellectuel, qui est, je dois me taper le résumé des 281 premiers avant de commencer à lire le 282, donc l'actualité, et comprendre mieux ce qui s'y passe. Donc, pour moi, je pense que c'est un sacré handicap de départ. On a eu des idées pour lancer des choses qui soient plus mobilisantes, qui soient plus sympas pour des jeunes lecteurs. Malheureusement, après on entre dans des histoires d'obligation par le fait que c'est une licence et que les Allemands seraient obligés de valider ce qu'on pourrait faire en version française avant qu'on soit autorisé à le publier. C'est pour ça, entre autres, que les super romans Café Pierre et qu'on fait d'autres en termes de romans famiques que publie le fan club, ces super romans, il est pour l'instant inconcevable de les faire éditer officiellement en France parce que le bailleur de licence allemand ne sait pas si ces romans répondent au canon de la série. Donc on est extrêmement gêné avec ça. Et donc pour attirer du jeune lectorat, peut-être qu'il y a une idée actuelle qui pourrait fonctionner. Bon, moi je suis en train de regarder ça d'assez près et je me pose encore beaucoup de questions. Bon, les Allemands ont démarré au mois d'octobre un reboot, pour parler en termes informatiques, de la série depuis le début. Au lieu de la faire démarrer en 1971, ils ont projeté le démarrage en 2036. On retrouve certains personnages. On retrouve un peu la thématique de départ avec des Américains qui vont sur la Lune et qui trouvent ce vaisseau naufragé et plein de problèmes à régler sur la Terre, donc ça va aider à régler ces problèmes-là. Donc ils ont actualisé le contexte, actualisé les personnages, la manière de présenter, de faire se comporter les personnages. Autrement dit, au moins dans les premiers romans, on est plus axé sur l'évolution psychologique ou le positionnement psychologique des personnages que sur l'aspect scientifique. Il n'y a pas 36 pages de description de la propulsion de la fusée comme il y avait dans la version d'origine. Mais je ne suis toujours pas encore très convaincu que ça soit la chose qui pourrait faire démarrer le périrodome que nous on connaît. Sachant que si on veut traduire ça, plus je le lis et plus je m'en persuade, je pense qu'il faudrait le faire traduire par des gens qui ne connaissent strictement rien à la version canonique.
Oui, parce que ça soulève... Alors, tout d'abord, pour les gens qui veulent commencer le nouveau cycle numéro 282 et qui n'ont pas envie de lire les 280 précédents, il y a quand même un bon moyen, c'est de lire l'ouvrage de M. Archimbaud, ici présent, si on le trouve aux éditions Ancrage, où il y a déjà un résumé de tous les épisodes parus en Allemagne, jusqu'à l'époque. Donc jusqu'en 99. Ça donne. Alors, comme nous, on aborde maintenant en français les années 70, ça va, c'est couvert dans le livre. Alors ensuite, moi, un petit commentaire, c'est vrai que ça me choque un petit peu. En tant que lecteur de la première heure, de dire qu'on réactualise Perry Rodan, etc. En plus de ça, ça doit faire perdre le charme. Je ne vois pas comment, si on réactualise, par exemple, tout ce qui se passe dans les tout premiers volumes sur Vénus, Vénus qui est couverte d'une jungle comme on l'imaginait à l'époque, si on réactualise ça aujourd'hui, c'est pas la même chose. Si on est dans une espèce de désert à 450 degrés, hein. Bon, c'est un peu dommage.
On n'y va plus.
Voilà.
Mais il y a quelqu'un qui y va et puis c'est pas du tout ce qu'on a connu. Elle y va, pas toute seule en plus. Et elle va en revenir avec quelqu'un auquel on s'attend pas non plus. Donc c'est complètement, je dirais, différent de la version qu'on connaît. Et bon, pour en avoir entendu parler, entre autres au mois d'octobre là-bas, dans leur idée, s'ils arrivent à la continuer, les personnages du Perry Rodan Néo, puisqu'il l'appelle Néo, n'ont aucun droit et aucune éventualité de rencontrer un jour dans leur action les personnages de la série actuelle. C'est-à-dire qu'ils le conçoivent vraiment comme deux choses séparées, différentes. Mais je pense que, bon, moi, j'ai du mal à entrer là-dedans parce que j'ai la version française trop en tête. Et quand je lis ces bouquins-là, j'essaie de faire ma traduction dans la tête au fur et à mesure. Mais j'ai trop de références en matière de la traduction originale, surtout qu'elle avait été faite au début par une personne qui est absolument géniale et qui a créé son Perry Rodan, je veux dire, avec sa terminologie, avec ses styles, sa chaleur. Donc, quand je lis aujourd'hui des choses qui se passent dans le système de Vega, je suis là, et que j'entends la petite musique dans ma tête et la chanson de Jacqueline Osterat sur les ferroliens, les toxiques et compagnie, et que je vois dans le texte allemand ce qu'il y a aujourd'hui, du bon sens. Si tu le traduisais, ben tu serais bien impliqué parce que tu aurais envie de refaire ce qu'elle avait fait, et en même temps, tu ne peux pas refaire ce qu'elle avait fait parce que c'est pas ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que j'en serais ravi aujourd'hui de dire que si le fleuve, enfin Coquette prend l'optique de traduire ça, il vaudrait mieux que ce soit des gens qui ne connaissent rien et qui n'ont pas lu, par contre qui est quand même un garant de la Bible terminologique, parce que bon, les termes techniques, il faut quand même qu'ils restent humains.
Alors il y a plusieurs questions. Monsieur d'abord et puis monsieur ensuite.
Alors d'abord merci de nous faire découvrir cette série, de mieux nous la faire découvrir, parce que désolé de le dire, mais elle a un peu mauvaise presse dans la SF généralisée. Alors par rapport à cette idée de faire attirer les nouveaux lecteurs cette licence, cette saga, je me suis dit peut-être des produits dérivés, enfin comme des BD, des adaptations ciné, des dessins animés, enfin après, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, mais...
Il y en a qui portent des t-shirts.
Oui, j'ai vu ça, très beau t-shirt. D'abord ça, et enfin, après, oui. une vraie question, hormis la France, est-ce que la série est traduite dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, ou même au Japon, enfin, dans le marché asiatique?
Pour les produits dérivés, donc, en France, il n'y a strictement rien. Les Allemands, oui, ont pensé. En bande dessinée, il y a eu une série qui a duré longtemps, dans les années 70, mais qui est poursuivi actuellement, mais qui est totalement secondaire. Mais ils font beaucoup, enfin les Allemands se spécialisent aussi, ils font beaucoup de petits, des livres en mini-série. Donc en fait, il suffit d'avoir 3 épisodes pour avoir toute l'histoire. Donc ça permet, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la série. Alors, la série télé, ça fait partie des projets qui, on en entend parler, tous les 2 ans, on entend parler qu'il y a vaguement un projet, mais il n'y a absolument rien qui se fait. Et en fait, ça peut rebondir sur la deuxième question. C'est que Perry Rodan a été traduit aux États-Unis à une époque, dans les années 70, mais n'est plus du tout maintenant. En Angleterre, il y a aussi une édition en Angleterre, mais ce n'est plus du tout. Donc il y a tout le monde anglo-saxon qui ignore totalement Perry Rodan. Donc pour des projets cinématographiques, c'est pratiquement à l'eau. Mais pour quelque chose de purement européen.
Il faut quand même citer pour le plaisir de... Je crois qu'il faut quand même citer pour le plaisir de tous les amateurs de nanar l'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Hein, opération. Hein.
Opération. 4-3-2-1, Destination Lune. Opération Lune. Enfin, c'est un film italien des années 60, un très gros navet.
Une pure merveille.
Un petit commentaire là-dessus, parce que moi je vais quand même mettre les choses au point. C'est le genre de film, si vous êtes fan de Perry Rodan, et si autour de vous la famille ne l'est pas,
n'allez pas le voir.
Et si vous projetez ça à la télé chez vous en disant venez voir c'est du Perry Rodan, vous finissez à l'asile direct. La vie familiale est simple. Si c'est ça ta série, c'est en cabale tout de suite. Parce que c'est absolument un nanar culte, certes, mais c'est une trahison monumentale, avec des effets spéciaux catastrophiques. C'est un truc, mais... Ed Wood, à l'italienne, donc... indescriptible.
Et pour les fans,
c'est pas recommandé non plus. Mais surtout, si vous êtes pas fan, n'allez pas voir ça. Ouais. Vous êtes guéri à vie.
Voilà, monsieur.
Je voulais rebondir un petit peu sur Perry Rodan N-E-O. Moi, je connais Perry Rodan depuis que j'ai 14 ans. J'ai découvert cela en Côte d'Ivoire un jour, tranquillement dans les bacs à livres. Et j'ai continué tout doucement, un petit peu, à le lire, à le découvrir de temps en temps, à le trouver en France, etc. Et sur le temps, dans les années 70, par rapport aux fascicules que l'on a à l'heure actuelle, c'est une lecture qui est quand même assez difficile. Il y a un peu de remplissage, il y a des thèmes qui viennent et qui s'entrechevauchent. Mais je voudrais dire 2-3 choses. Ma perception de Perry Rodan, c'est une série qui est très complexe, extrêmement riche, mais vraiment extrêmement riche, parce que l'on passe d'un fascicule à un autre, alors en français ou bien en allemand, on va retrouver des intrigues et des cadres qui se calquent exactement dans tous les autres, dans toutes les autres séries de science-fiction. Il va y avoir des mutants, il va y avoir des immortels, il va y avoir toute la progression géographique, cosmique, il va y avoir des extraterrestres de telle et telle forme qui réfléchissent de telle et telle manière. Et en fait, moi je pense aujourd'hui, en ayant lu pas mal de science-fiction mondiale, que tous ces thèmes-là se retrouvent dans Perry Rhodan d'une manière ou d'une autre. Alors on peut dire que quelqu'un les a calqués dans un sens ou dans un autre, ça n'a aucune importance, mais 2639 ou 38 ou 34 fascicules, les gens ont copié, les gens ont innové, il y a tout, c'est extrêmement riche. Je voulais revenir sur Perry Rhodan et Neo. Okay. Donc je les ai lus tous, j'en édite les résumés que vous avez sur le site de Michel aujourd'hui. Et je suis d'avis totalement différent par rapport à Jean-Michel. Je suis entièrement d'accord ce que vous avez dit. C'est tout à fait vrai. Mais on a très bien vu à Mannheim, s'ils ne font pas quelque chose, c'est terminé. Sur le long terme, c'est terminé. Okay? Donc ils sont obligés de faire quelque chose. Concevablement, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire? Ils peuvent recréer une série entièrement nouvelle avec d'autres personnages. Ils peuvent peut-être utiliser la marque de manière à le faire connaître et recommencer. Mais ça marchera ou ça ne marchera pas. Très souvent, moi, depuis que j'ai découvert donc Perry Rhodan à 14 ans, je me suis 13 ans, je ne sais plus, je me suis dit, mais qu'est-ce que je ferais si je devais la réécrire moi-même de manière à changer toutes les illogismes, je ne sais pas si on dit ça, toutes les erreurs de logique fondamentales qu'il y a dans Perry Rhodan quand ils l'ont écrit dans les années 60 et dans les années 70. Alors, dans les années 70, on se perd dans les éléments intellectuels qui sont très durs pour que les gens reviennent concrètement aux choses. Mais il y a eu énormément d'erreurs, énormément de choses absolument fantastiques qui ont été faites. Donc, si je devais le réécrire aujourd'hui, que ferais-je? Et je pense que ce qu'ils ont fait... j'ai du mal aussi de temps en temps parce que je me rappelle des livres que j'ai dû lire 10 fois, comme tout le monde, tout au moins les 50 ou 60 premiers. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Et je trouve que donc ils ont fait un choix, ils ont fait un choix commercial. On retrouve les mêmes gens, réactualisés un petit peu différemment dans des structures socio-économiques. Différentes. Vous l'avez vu, moi je trouve qu'ils sont beaucoup trop anti-américains, mais bon, ça c'est un certain parti pris personnel. Mais bon, c'était vraiment pour faire sourire. Mais ils sont rentrés dans un mécanisme où ils ont la capacité de réactualiser. Moi je leur donnerai du temps. On va voir comment ils vont faire évoluer cela. Ils nous remettent dans une science actuelle. Dans une informatique actuelle, dans une capacité de raisonner avec des flux et des masses de gens économiques, sociales actuelles. Clairement, ils veulent aussi vendre aux Chinois, ce qui est une très bonne idée parce que cela peut donner une pérennité financière aux choses. Moi, je pense que... Je réserverai encore mon avis. Ça passe ou ça casse, à mon avis cela va passer, et quand on voit la démographie actuelle, on vient d'en parler, on l'a vu à Mannheim, ils n'ont pas le choix. Okay. Et c'est excellent, et encore une fois, je sais qu'ils ne sont pas traduits en français ou en anglais, les Perry Rhodan NEO de 1 à 10, et les 25 premières pages du 11 que j'ai pu lire, même s'il y a des chocs, des choses en fait... vous l'avez dit très bien, qui me choque culturellement. Par exemple, vous allez apprendre que les féroliens sont polygames. Donc, il y a des hommes, ils ont plusieurs femmes. Moi, ça me choque. Okay. Mais donc, alors, c'est un avis personnel, hein, mais ça me choque quand même. Non, c'est pas partout, Dieu merci. Et donc, il y a des choses qui choquent. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'elle le traduirait aujourd'hui, mais sinon, globalement, c'est excellent. Je vous remercie.
Alors, moi, je suis aussi dans la position d'attente, c'est-à-dire que je me suis donné et je leur ai donné un jalon qui est de boucler l'aventure dans le système de Vega et de boucler la rencontre avec le mortel. Donc, c'est quand même pour moi la partie au départ fondamentale de la série. Donc, voir déjà comment ils vont jusque-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Comment ils réembrayent? Parce qu'il y a des choses qui se collapsent un peu par rapport au fil d'action suivant qu'on connaît. Surmutant, qui est plus appelé comme ça, intervient beaucoup plus tôt et s'est court-circuité beaucoup plus tôt. Gorachin, le bicéphale, c'est plus un bicéphale, c'est autre chose. Bon, j'arrête les spoilers, ça passe à silence.
Mais on a tout massacré.
Okay. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après l'acquisition de l'immortalité relative? Je voudrais quand même bien savoir. Et je voudrais voir un peu plus loin sur le moyen terme, jusqu'où ils vont continuer. Alors, en espérant bien sûr qu'ils continuent très loin, mais on attend quand même des résultats pour savoir si nous, on lance un projet comme ça, est-ce qu'on va l'arrêter au bout de 24 volumes, parce que les Allemands, malheureusement, ont dû arrêter. Voilà. Donc, et je suis. Donc, dans cette situation-là, je crois qu'il faut attendre encore à peu près 3 mois pour avoir bouclé la quête cosmique. On appelait nous la quête cosmique autrefois, c'est autre chose aujourd'hui. Et d'ici 3 mois, je pense que l'idée sera faite pour dire oui ou non on prend. Maintenant, après, comment on prendra et surtout, quel sera le choix pour la traduction, je ne sais pas du tout. Mais je reste quand même persuadé qu'il va falloir faire du neuf. Et avec des gens qui sont. Qui ont l'esprit libre, je veux dire, par rapport à nous. Parce que nous, on est trop dans la structure de pensée héritée de Jacqueline Osterhout. Moi-même, quand j'ai traduit, j'ai essayé de reconstituer ou de retrouver un peu son style, parce que j'aimais beaucoup. Je pense qu'il faut plus traduire comme ça aujourd'hui. Il faut essayer d'être plus percutant, plus moderne, sans tomber dans les excès de. J'y vais brutalement de vulgarité de banlieue, comme on les trouve par exemple dans les traductions des parodies Harry Potter. Il ne faut pas aller vers ça, mais il faut quand même être plus actuel. Voilà, et pas avoir un langage un peu petit doigt en l'air tiré à quatre épingles. On a quand même l'impression de trouver quand on lit les traductions au début des années 60.
Alors, je vois que là, l'heure tourne. Mais il y a quand même une chose, à moins que j'ai manqué un épisode depuis 50 minutes que nous parlons, mais il me semble qu'on n'a jamais prononcé encore le nom des écrivains fondateurs de la série, et je pense quand même que ça serait bien qu'on leur rende un petit hommage, parce que malgré tout, c'est grâce à eux qu'on a allé depuis 40 ans. Il me semble qu'on n'a pas prononcé leur nom depuis le début.
Donc, même maintenant, donc, tous les périodales paraissent sous le nom de K. Asher et Clark Darton, qui sont les deux fondateurs de la série. Sachant que pendant très longtemps, K. Asher est celui qui est donc, le rédacteur de l'exposé, qui avait vraiment dirigé la série. Donc, c'était vraiment lui le chef. Et lui, c'était plutôt le côté ingénieur, donc il fallait que ça soit une mécanique bien huilée. Et Clark Dalton était plutôt l'humaniste, avec des personnages beaucoup plus amusants, comme le Mulot Castor Lémire, qui est vraiment une des grosses vedettes de la série. Et je pense un des gros succès de la série, c'était justement le mélange entre le côté strict ingénieur de Scheer et le côté humaniste de Clark Dalton. Sachant qu'après, il y a d'autres auteurs qui sont venus, donc Cotnard, Kurt Brandt, William Wolf, qui est le chef de la série dans les épisodes qui paraissent actuellement en France. Et après, on va pas tous les citer, mais dans les épisodes qui paraissent actuellement en France, il doit y avoir 5 ou 6 auteurs qui alternent. Donc, pour la première fois, une femme qui écrit pour la série, Marianne Sedeau, dont le premier épisode vient juste d'apparaître en France.
Alors, d'autres questions?
Justement, pour une série aussi longue qui va perdurer encore et encore, je voulais savoir quels étaient, au jour d'aujourd'hui, enfin, les grands bouleversements, enfin, si on devait citer Perry Rodan en 10 romans ou grande fascicure, quels sont les gros trucs, les romans qui sortent un peu du lot, qui bouleversent un peu le...
Moi je partirais d'entrée de jeu sur les 9 premiers, parce que c'est le culte fondateur incontournable. Dans les 9, il y en a peut-être un ou deux qu'on pourrait lire plus rapidement ou les laisser de côté, mais bon, les 9 premiers c'est déjà un bloc important. Après ça, je pars dans l'édition française. Il faut partir au numéro 22 qui s'appelle l'Amiral d'Arcolis, parce qu'on y voit apparaître le deuxième personnage clé de la série. Et ça, ça a été un coup de génie quand ils l'ont lancé, parce que ça va être un complément, une antithèse, et en fait une source de remise en question permanente pour le héros principal. Donc c'est vraiment génial d'avoir sorti à ce moment-là, et comme ils l'ont sorti, parce que c'est lui qui va amener la clé vers la redécouverte du passé et des colonisations précédentes et des événements précédents, et on découvrira beaucoup plus tard que lui aussi, il fait partie des personnes qui ont été marquées très tôt par le fameux immortel, la super-intelligence qui préside au destin de la clé de l'humanité, parce qu'il a un rôle important à jouer, il fait partie des futurs porteurs de l'évolution. Donc déjà c'est le cas là. Après, allez voir vers le début du cycle dit Andromède. Donc c'est vers le 88 de l'édition française. Pas se taper tout le cycle, ou alors il faut vraiment le lire très vite, parce que on dure quand même 50 livres chez nous. Bon, maintenant si vous en lisez un par jour, c'est vrai que vous n'aurez pas l'impression de vous ennuyer. Et après, allez voir le 188, parce que là, c'est quand même une sacrée rupture entre ce qui a précédé et ce qui va arriver après. C'est là où le système solaire est escamoté derrière un écran paratemporel pour éviter d'être agressé par tous ceux qui valent sa peau. Donc là, il y a une idée très forte au départ, et de la manière dont ça se développe après, c'est intéressant aussi. Et ensuite, moi, je sauterai directement à l'actualité d'aujourd'hui. Allez regarder le 242, qui était le démarrage du cycle du Conseil, parce que là aussi, ça pète un coup et ça pète très fort. Bon, très bizarrement, ils ont repris la thématique de l'invasion et de l'occupation, mais c'est la Voie lactée qui se fait envahir et occuper. Donc c'est très marrant que ce soit des Allemands qui aient écrit ça, parce qu'ils ont fait une certaine époque. Mais ça peut poser plein de questions. Donc, celui-là est fondamental. Le début du cycle suivant, le 256, Affili, c'est aussi un petit chef-d'œuvre parce que là, on passe dans un point de vue intimiste, extrêmement intéressant sur une affection psychologique qui touche l'humanité terrestre. Et là, on a des choses extrêmement percutantes sur le comportement des gens, les relations entre les individus, et on aborde vraiment une partie sociologique. Et après, passer au 282, qui est le démarrage du cycle actuel, parce que il y a une conception d'intelligence extraplanétaire cristalline qui vaut vraiment le voyage. Voilà, en grande ligne, ce que je pourrais dire.
Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. J'espère que tout cela vous aura donné envie de lire enfin les 281 volumes déjà parus. Puis ce suivant, comme je disais, un par jour. En 9 mois, vous les avez lus. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Bon. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre attention et merci à nos panélistes.
Un dernier mot très vite. Pour les gens qui sont intéressés, je peux donner une adresse internet où il y a ce fameux résumé à télécharger. Donc le résumé des 9 premiers cycles dans l'édition française. Donc je vais la copier sur un papier, je la laisse à disposition. Si les gens veulent la prendre, il n'y a pas de problème.
J'ai 100 pages.
Voilà, merci.
Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le stand de Basis maintenant pour poursuivre.